Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une conférence qui va parler de pédagogie, du projet d'architecture et à la fois aussi de systémique, d'approche systémique et d'outils concrets pour pouvoir modéliser ou analyser la manière dont on conçoit un projet d'architecture. Alors, petite introduction. Comment ça va être organisé? Alors, il y a trois parties dans l'exposé. Il y a une partie, c'est le corpus théorique, donc c'est la partie plus théorique au départ, simplement pour poser quelques concepts, définir ce qu'est un processus de conception, et aussi définir une série de ce que j'appelle, moi, des questionnements des modèles architecturaux. Une deuxième partie qui montre un cas empirique, donc un cas qu'on va analyser. Et en fait, ce cas, c'est un projet qui a eu lieu avec les étudiants de Bac 1 cette année. Et à partir de ce cas-là, qu'on va présenter, dans la troisième partie, il va y avoir une analyse du cas avec les outils théoriques présentés dans la première partie. Donc voilà, c'est assez simple comme structure. Maintenant, on va voir comment on s'en sort. Il y aura aussi une petite conclusion, forcément. Alors, pour démarrer, en systémique, en approche systémique, en général, la première question à se poser, c'est quel est le système que l'on va observer? Parce que des systèmes, on peut en faire avec à peu près n'importe quoi. Donc, la première question, c'est vraiment de se dire, mais qu'est-ce qu'on va étudier? Alors, quel est le système observé ici dans ce travail? C'est un modèle architectural dans un espace de conception. Alors, ça paraît un peu vague comme ça. On va tout de suite expliquer ce qu'est le modèle architectural et pourquoi il est dans un espace de conception. Le modèle architectural est considéré comme le système. L'espace de conception est considéré comme le contexte dans lequel est observé le système. Alors, un modèle architectural, ça n'a rien de compliqué en soi. C'est simplement un concept qui désigne l'image mentale que l'on peut se faire d'un projet. Donc quand un architecte, ici plutôt un étudiant, est en train de concevoir un projet, il a à tout moment dans sa tête une image du projet en train de se faire, une image du projet qu'il voudrait arriver à clôturer, à terminer au bout du processus. Un modèle architectural, c'est ça, c'est une image mentale du projet. Alors, un espace de conception, c'est quoi? C'est aussi, dans la tête du concepteur, l'espace, le contexte dans lequel il va avoir cette image. Donc, l'étudiant ou l'architecte va dans sa tête imaginer son projet et imaginer aussi le contexte dans lequel se trouve le projet. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, c'est deux concepts de départ. Et alors, juste un petit point en plus, qu'est-ce que le réel augmenté? Le réel augmenté, c'est simplement se dire que le réel qui est hors de nous, lorsqu'on le perçoit, on le fait passer par nos organes perceptifs, il est filtré, et donc ça devient un réel qui est un petit peu différent, qui est une sorte de représentation de ce qui se passe hors de nous. C'est pour ça qu'on le qualifie d'augmenté, parce que ce n'est pas le vrai réel, c'est le réel tel qu'il est pensé dans la tête de la personne. Alors pourquoi je vous parle de réel augmenté? C'est parce que ce contexte, ce réel augmenté, chaque personne va pouvoir le partitionner, le structurer à sa manière. Et une structuration possible, notamment pour les architectes, c'est de dire qu'on va faire trois parties, trois principales parties, qui sont trois espaces différents, trois espaces de l'architecture. Alors, il y a le premier, c'est l'espace de l'architecturé avec un accent aigu, donc c'est l'espace réel, c'est l'espace dans lequel se trouvent les édifices construits. Il y a un deuxième espace, c'est l'espace de l'architecturé ER, le verbe, donc le fait de concevoir l'architecture. Ça, c'est l'espace de conception dont je vous parlais. C'est un espace qui est lié à l'autoréférence, donc ça veut dire à la conscience qu'on a soi-même de ce qu'on est en train de concevoir. Et enfin, on a un troisième espace, l'espace de l'architecture au sens large, qui lui émerge des interactions entre les différentes personnes d'une culture. Et donc là-dedans, on trouve les traités d'architecture, les références, les images connues, toutes les connaissances qui sont mobilisables par le concepteur dans l'espace 2 pour concevoir un projet qui, au final, sera construit dans l'espace 1, l'espace des édifices réels. Voilà, donc un démarrage théorique. On va un peu plus loin. Alors, circularité, itération et autoréférence. Je vais montrer trois images, trois illustrations pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'architecture pour essayer de faire comprendre ce que pourrait être un processus de conception. C'est évident que ce qui se passe dans la tête d'une personne, c'est pas possible de le modéliser directement. C'est totalement impensable puisque c'est une sorte de boîte noire, c'est un cerveau. On ne sait pas aller dans le psychisme de quelqu'un pour aller voir ce qui se passe. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas le faire, mais moi, personnellement, je pense qu'on n'y arrivera jamais. Alors, trois illustrations. Une première ici, donc ça, c'est au Vatican. C'est un escalier qui est situé à la fin de la visite quand vous allez au Vatican, pour ceux qui sont déjà allés. Tout à la fin du parcours, vous terminez par cet escalier. Alors, c'est un escalier qui est assez long, comme ça, assez ample, et qui n'en finit pas, soyons clairs. Surtout quand on a fait 2 ou 3 heures de visite avant. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cet escalier-là ? Parce qu'il est particulier à plusieurs égards. D'abord, c'est un double escalier. Donc, il y a 2 escaliers qui sont emmêlés les uns dans les autres. Donc, il y a une double spirale emmêlée. Il y a aussi une verrière au-dessus qui donne de la lumière. Et puis, plus on descend dans l'escalier, plus la lumière progressivement se diffuse et moins on a de clarté vers le centre. C'est aussi l'aboutissement de la visite pour les visiteurs. Alors, pourquoi est-ce que je prends cette image ? C'est parce que ça fait référence aussi à une citation que les systémiciens utilisent souvent. « Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se construit en marchant. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on est face à un projet d'architecture à concevoir, il est impossible à l'avance de savoir quelle sera la solution du projet. C'est impossible pour vous, quand vous démarrez, de vous dire « Ah ben tiens, dans 8 semaines, par exemple, au jury, mon projet, il sera comme ça. » Pareil. C'est quasiment impossible. Donc, il y a une sorte d'inconnu. Il n'y a pas de chemin préétabli non plus, a priori. Et le chemin se construit en marchant. C'est-à-dire que le processus, eh bien, un processus, ça va se faire en plusieurs étapes progressives. Et vous allez faire des tours, des allers-retours avec le projet, avec votre enseignant à l'atelier. D'où aussi l'idée de l'escalier en spirale, parce que ça représente aussi les différentes itérations successives, les allers-retours successifs au cours du processus de conception. D'où l'idée aussi de la verrière. Au début, c'est très éclairé, on commence le projet, les choses sont ouvertes, on peut convoquer toutes sortes de données, toutes sortes d'idées. Et puis progressivement, plus on progresse dans le projet, ben, plus les idées s'écartent les unes des autres, il vous en reste plus qu'une, une ou deux, pas plus, et surtout, la fin paraît de plus en plus difficile à clôturer. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là que je vous montre cet escalier. Alors le fait qu'il y ait une double hélice, ça veut aussi dire que le même concepteur, le même étudiant en architecture pourrait très bien prendre 2 chemins différents à partir pour un même projet, sans forcément recroiser sa trajectoire, mais en même temps, les chemins sont mêlés. Donc, s'il prend 2 chemins différents, il y aura quand même des proximités entre les deux. Ça peut aussi symboliser le fait que 2 personnes différentes peuvent concevoir un projet et, à partir aussi d'un même énoncé, avoir des trajectoires différentes, mais proches. Donc, c'est toutes ces choses-là qui sont dans cette image. Et donc, on peut conclure en disant que la conception, c'est un processus à la fois circulaire, convergent et divergent. Ça veut dire que parfois ça converge vers le centre, parfois, vous le savez bien, vous divergez parce que vous éloignez complètement de toute solution possible. Alors il y a une deuxième image, enfin c'est celle-ci l'image, mais ça c'est pour aider à comprendre. Il y a eu 2 inventions, il y en a une, je ne sais jamais dire le mot, donc c'est le phénakistiscope. Qui est ici sur le côté. Et là, vous avez le zootrope, ça c'est beaucoup plus simple. Alors, ces deux inventions, elles ont été faites juste avant l'invention du cinéma. L'idée, c'est qu'un chercheur a réalisé que quand un individu voyait un objet en mouvement, il y avait une sorte de permanence rétinienne, comme il appelait ça. Donc, ça veut dire que l'œil était capable, entre différentes perceptions de l'objet, de reconstituer un mouvement complet. Alors, pour pouvoir montrer ça, ils ont inventé ces deux inventions-là. Alors, il y en a une qui est faite à partir d'un disque, comme on dit, et l'autre qui est faite à partir d'un tambour. Donc, celui-là, il est vertical, celui-là, il est horizontal. Alors, dans un cas, Ici, ben, vous vous mettez face à une glace, vous faites tourner le disque, avec là-dessus, il y a quelques images donc, qui décomposent un mouvement. Vous faites tourner le disque, vous regardez par la fente, et puis vous voyez la chose qui s'anime. Même chose de l'autre côté, là, vous faites tourner le tambour, vous regardez face au tambour, et à travers les fentes, vous voyez, vous pouvez reconstituer le vol, par exemple, du goéland, qui est ici. Alors, pourquoi montrer ça ? Simplement parce qu'un projet d'architecture, c'est quelque chose de complexe. Ça, c'est pas les systémiciens qui vont me détromper. Donc, c'est quelque chose d'éminemment complexe. Et donc, un être humain, avec son intelligence, son cerveau, il est très démuni face à quelque chose qui le dépasse, qui est terriblement complexe. Et donc, la seule possibilité qu'il a, c'est de décomposer son problème en plusieurs parties. Et puis, à l'aide de ces parties, de les remettre en mouvement, de les redynamiser et de reconstituer le problème. Alors ça, c'est l'idée du zootrope. Ça veut dire que quelqu'un a passé son temps à décomposer les différents mouvements ou les différentes séquences du mouvement du goéland, et grâce à l'appareil, au zootrope, on peut reconstituer le mouvement complet. L'idée des outils systémiques, justement, c'est d'arriver à une recomposition des choses, alors que l'approche plutôt analytique, elle, a plutôt tendance à découper, subdiviser les problèmes pour les résoudre. Donc, la conception, c'est un processus qui est itératif. Ça veut dire qu'on va faire des itérations successives sur l'une ou l'autre dimension du problème, et puis progressivement, grâce aux itérations et au fait que le processus se fait dans le temps, on va tenter progressivement de reconstituer le tout. Alors une troisième image, donc c'est celle-ci en fait l'image, mais ça c'est pour comprendre. Il y a autre chose qui s'est fait, c'était au départ pour pouvoir ficher les repris de justice. Donc, vous savez, les portraits de face, de côté, de dos, etc. À l'époque, ils avaient inventé un système avec des miroirs et un appareil photo justement pour pouvoir en une prise avoir un portrait multiple d'une personne. Et puis progressivement, ça n'a pas servi que pour les repris de justice. Ça a aussi servi dans les foires à l'époque. C'était une attraction, comme les autres. Et il y a quelqu'un d'assez connu, qui est Marcel Duchamp, qui est allé se faire tirer le portrait, un portrait multiple, avec son ami de l'époque, Henri-Pierre Rocher. Et donc, les deux ont ici un portrait multiple. Pour Duchamp, c'était une sorte de ready-made, donc une sorte d'objet usuel déplacé pour en faire une œuvre d'art, désignée comme une œuvre d'art. Alors pourquoi est-ce qu'on montre ça ? Mais simplement parce que cette image, c'est l'image en fait du concepteur en train de regarder le concepteur qui regarde le concepteur qui se regarde. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire un projet d'architecture, à tout moment, la personne qui le conçoit, qui conçoit le projet d'architecture, va user de la réflexivité, de l'autoréférence, pour orienter par petites touches successives son projet. Quand vous êtes en train de faire un projet, vous vous retrouvez souvent seul face à votre feuille, avec votre projet, et c'est en se lançant, en essayant, et puis en recommençant, puis en re-recommençant et en réorientant les choses, que progressivement le projet peut se faire. Vous avez le même phénomène quand vous êtes face à un enseignant d'architecture, à quelqu'un d'extérieur, qui va avec ses références aussi réorienter peut-être progressivement par petites touches, votre projet. Vous avez la même chose aussi avec les autres étudiants, par exemple, de l'atelier, qui partagent le même énoncé ou le même projet. Donc, la conception est un processus autoréflexif. Alors là, j'ai juste mis la petite illustration parce qu'elle vient de sortir et je la trouvais intéressante. Le cerveau est une sorte de labyrinthe complexe et inexploré. Et donc du coup, la conception, étant donné qu'elle est soumise au principe de circularité, d'itération et d'autoréférence, la petite conclusion locale, disons, dans l'exposé, c'est de dire que les règles de la méthode analytique ne suffisent pas pour pouvoir modéliser ou pouvoir comprendre ce qu'est un processus de conception. Et donc, pour expliciter les opérations menées sur un modèle architectural, je vous rappelle donc l'image mentale du projet dans un espace de conception, ça ne suffit sûrement pas non plus. Du coup, l'idée, c'est d'ajouter en complémentarité, ça ne veut pas dire que tout ce qui est analytique, c'est mauvais, c'est vraiment en complémentarité d'ajouter quelques éléments systémiques, quelques outils systémiques pour comprendre le processus de conception. On arrive à un deuxième point, totalité, l'un et le multiple. Alors, je vous montre ici deux œuvres de René Magritte, donc peintre surréaliste. Alors, il y en a une en 62 et une en 67. 67, c'est l'année de la mort de Magritte. Donc, c'est sa dernière œuvre, je pense. Et de manière un peu ironique, ça s'appelle Le Dernier Cri. Alors, pourquoi je montre ces deux illustrations-là? C'est parce que dans l'une, on a un arbre qui cache une feuille. Dans l'autre, on a une feuille qui, en substance, comprend l'arbre. Alors, c'est aussi un motif systémique très courant. C'est la question du tout et des parties, de l'un et du multiple. Si vous êtes en méthode analytique, vous allez commencer par être face à un problème, un tout, et vous allez progressivement le diviser en parties. Chaque partie sera suffisamment divisée pour être relativement simple à résoudre, et en résolvant les différentes parties les unes après les autres, ça va vous permettre en fait de donner une réponse au tout. Ça, c'est la méthode analytique. La méthode systémique, par contre, c'est de dire qu'on va recontextualiser le problème. Si on est face à un problème, plutôt que d'en faire des parties, on va plutôt voir ce qui se passe autour, dans le contexte, voir comment les relations se font avec le contexte. Et donc, je trouvais ça pas mal, parce que dans les deux œuvres de Magritte, en fait, on voit la dialogique entre ces deux idées-là. Alors, il y a un architecte qui a recopié ça. Enfin, je ne sais pas si c'est lui qui a recopié au Magritte, parce que c'est aussi en 62. Donc, c'est la même époque que la première œuvre de Magritte. Donc, c'est Aldo Van Eyck qui a écrit une sorte de petit poème sur l'histoire de l'arbre et de la feuille, en disant qu'une ville était à la fois un arbre et à la fois une feuille, dans le sens où c'est à la fois constitué de parties, mais c'est à la fois un tout. Et quand on est dans une partie, dans une maison, à la fois la maison, elle émerge aussi des interactions qu'elle a avec le tout. Et inversement, la cité, à travers les interactions qu'elle a, elle est influencée par la maison, la parcelle, la partie. Donc c'est quelque chose qui se retrouve dans plusieurs écrits. Un autre petit dessin, simplement pour montrer que d'un niveau à l'autre de l'espace, qu'on soit au niveau de la partie ou au niveau du tout, on ne voit pas forcément les mêmes choses. Si vous êtes architecte, vous représentez un mur au centième, vous allez faire deux traits. Au cinquantième, on va commencer à voir par exemple une coulisse. Et au vingtième, on va commencer à voir toutes les couches avec les isolants. Donc ça veut dire que, en fonction du niveau d'espace que l'on va envisager, questionner ou modéliser, on ne va pas représenter les mêmes choses et on ne va pas être face aux mêmes informations, au même type d'informations non plus. C'est la même chose pour un arbre. Quand il est vu au 500e, c'est tout simple, c'est un cercle vu du haut. Quand on est au 200e, on commence éventuellement à dessiner un peu le feuillage. Et quand on est au 100e, à l'échelle des personnes, des habitants, là on va couper dans le tronc parce qu'on se trouve encore à un autre niveau. Donc on n'a pas les mêmes types d'informations au même niveau d'espace. Alors, un petit retour sur la modélisation donc, du processus de conception. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai parfois déjà expliqué à certains. Donc, un petit résumé. Donc, qu'est-ce que c'est un processus de conception d'architecture? Donc, c'est d'abord une temporalité. Ça se fait au cours d'un temps. On peut représenter aussi donc, l'image mentale du projet, le modèle architectural. On peut le représenter aussi comme élément d'un hélicoïde convergent ou divergent à plusieurs endroits. Donc, vous voyez ici, il converge vers quelque chose, là il diverge. Alors, ça simplement pour vous dire que dans cet hélicoïde, on peut imaginer qu'à chaque point de cet hélicoïde, on a une image du projet. Ça, c'est le mouvement réflexif du concepteur. Donc, c'est un peu l'image de Marcel Duchamp. C'est les petites touches qui vont être mises au cours du processus pour réorienter le projet en fonction des références personnelles, de l'autoréférentiel. Ça, c'est un domaine de données. Donc, c'est se dire qu'un projet d'architecture n'a pas forcément 100 données, 1000 données. Tout dépend de la part du concepteur, le nombre de données qu'il va intégrer ou non dans son projet. Et surtout, en cours de processus, il y a des moments où vous allez évacuer certaines parties du problème ou certaines données, parce qu'elles sont plus elles ne sont plus intéressantes pour vous. Il y a d'autres moments, par contre, où vous allez rajouter, élargir et encore reprendre des données. Vous voyez que c'est aussi quelque chose qui est fluctuant. Vous avez de la même manière un domaine de solution. à partir d'un énoncé pour un projet, ben, il y a pas une solution, mais il y a un grand nombre de solutions possibles. Et là aussi, en cours de processus, il y a des moments où le nombre de solutions possibles va augmenter, simplement parce que votre projet est un peu plus ouvert. Et puis, il y a des moments où le nombre de solutions possibles, ça va rétrécir, parce que tout d'un coup, vous êtes avancé dans le projet, et donc les choses convergent. Donc, il y a des phases de convergence, divergence pendant le processus. Il y a toujours une image mentale au départ. Donc, quand on commence à concevoir un projet, on ne commence jamais à partir de rien. On a toujours un autoréférentiel de base, une vie, un vécu. On a eu des expériences dans la vie. Et donc, on a toujours des images au départ, avant de commencer. Et évidemment, le point de départ qu'on prend a une influence sur l'orientation du processus. Et alors, il y a toujours un point particulier. C'est le point où vous dites... Dans ce projet, dans ce processus-là, c'est le moment, je peux arrêter. Si je m'arrête maintenant, j'ai un projet qui tient la route, je peux le proposer à celui qui me l'a commandé, et c'est faisable, on va le construire. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pourriez pas aller plus loin dans le processus, puisque, comme beaucoup de personnes le savent, c'est jamais fini en architecture, on peut toujours améliorer, on peut toujours faire mieux pour le projet. Et ça ne veut pas dire non plus que cette solution est la meilleure. C'est en tout cas une solution tenable. Et alors, dernier point, à tous les moments, à toutes les phases, disons, importantes du processus, le concepteur va produire des représentations externes, donc des dessins, des calques, il va parler, il va faire des gestes, des maquettes, des 3D. Donc, chaque moment charnière va être concrétisé par une représentation externe. Et donc, pour étudier un processus de conception, souvent, on a justement la possibilité, grâce aux documents graphiques, de pouvoir étudier des choses qui ne sont pas tangibles sinon. Voilà, ça c'était un petit rappel pour voir un peu dans quel esprit on est. Alors maintenant je vais parler des questionnements des modèles architecturaux. Ce sont des questionnements justement qui vont être utilisés pour tester des projets. Alors, ces questionnements... ils ont été élaborés notamment à partir de diverses sources, notamment du gyroscope d'André Pic qui est là. Et puis ça a été adapté pour l'architecture. Et donc, c'est une série de concepts qui sont structurés en quatre familles. Alors, il y a une famille qui concerne des méta-questionnements, comme on dit, c'est tout ce qui concerne le contexte dans lequel va être inscrit le modèle architectural. Et puis, il y a trois autres familles qui fonctionnent en fonction de la manière dont on va... imaginer ou se faire une image justement du projet. Alors soit on s'en fait une image simplement à partir de ses organes perceptifs, donc c'est une image qui se fait à partir des formes, c'est formel. Soit on va commencer à hiérarchiser les éléments, ça devient structurel, ça devient une structure. Soit on va dynamiser la structure, la faire évoluer dans le temps, et alors là ça devient fonctionnel, et donc on parle de système. Alors, je ne vais pas rentrer plus dans les détails là-dedans, vous allez les voir après. Alors ça, c'est une autre manière de représenter donc, les différents questionnements. Celle-là, elle montre en fait les différentes relations qui existent entre tous les questionnements, parce que ce qui est prétendu ici, c'est qu'à partir d'un questionnement particulier, on vise indirectement tous les autres. C'est l'histoire du zootrope, donc l'histoire avec le goéland. Si on imagine que chaque posture du goéland, c'est un questionnement, mais en faisant tourner, même en s'intéressant d'abord à l'un et puis à l'autre, finalement, on finit par retrouver la complexité. Ceux du bas, ici, ce sont les contextuels, ceux-là s'occupent du modèle architectural. Et alors, vous avez une variante qui est plus illustrée, et ça, c'est celle que j'utilise pour expliquer aux étudiants, par exemple. Donc, c'est la même chose, mais avec une illustration. Alors, on arrive au cas empirique, donc le cas concret, réel. Alors, c'était un projet, donc déjà, qui concernait... Donc ça, c'est pas pour les étudiants, évidemment, ils le savent, mais pour les extérieurs, donc ça concernait environ 300 étudiants. Il y avait 14 enseignants qui étaient impliqués dans le projet. Le dispositif, donc le lieu de travail, ce sont les ateliers, donc ils sont juste au-dessus. Donc, ce sont des grands locaux où on a des tables à dessin et des plus grands tas pour faire les tablés. Et on a aussi des panneaux pour afficher normalement, notamment les plans. la temporalité, donc c'était 8 semaines, donc le projet durait pendant 8 semaines. Le type d'encadrement, eh bien, l'encadrement se fait de plusieurs manières chez nous. Il y a soit des affichages ponctuels, c'est-à-dire que l'étudiant arrive à l'atelier et il affiche ses plans, ses panneaux sur des simèses. Il y a du table à table, c'est-à-dire que l'enseignant se balade dans l'atelier, s'assied à côté d'un étudiant un à un et puis discute du projet. Et puis il y a des tablés, donc ça c'est des critiques plutôt en groupe. L'enseignant se met à une plus grande table, il y a 6-7 étudiants, parfois plus, ça dépend, qui viennent à table et chacun explique son projet. Et puis les autres étudiants qui sont à table peuvent poser des questions sur le projet en train d'être observé et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs dispositifs qui permettent de travailler. Et pourquoi je parle de ça? Ben parce que ces dispositifs en soi sont très systémiques aussi, puisque il y a à tout moment différents types de relations qui s'installent. Il y a de l'autocritique, de l'autoréférence. Bon, voilà, il y a de la circularité entre les personnes, etc. Mais c'est un autre, ça devrait faire l'objet d'un autre travail, quoi. Alors, l'évaluation, donc les étudiants sont évalués à chaque atelier, c'est-à-dire que l'enseignant voit l'état d'avancement des projets, prend les présences, regarde un peu comment l'étudiant évolue. Et puis sinon, il y a deux échéances certificatives, donc c'est-à-dire qui donnent lieu à une note, à une cote. Et ces deux échéances donc, étaient pour 5 crédits au total. Il y en avait une, c'était une phase qu'on a appelée, en tout cas l'équipe a appelé ça la phase d'analyse, donc c'était une pré-remise à laquelle on rendait le parti, donc c'est l'idée génératrice, le parti pris, le scénario et une sorte de matérialisation sommaire, disons, du projet. Et la deuxième phase, c'était la phase de synthèse, on a appelé ça comme ça, une remise, donc avec maquette, plan, projet final au 20e. Et vous voyez que analyse synthèse n'est évidemment pas mis là par hasard, dans le sens où la première phase, c'est bien la décomposition du problème en 36 petits sous-problèmes, c'est-à-dire la récolte de données. Et puis la phase de synthèse, c'est le moment où les étudiants vraiment ont une attitude beaucoup plus holistique et donc conçoivent leur projet dans sa globalité, dans sa totalité. Et donc, encore une fois, c'est bien la complémentarité de ces deux phases qui importe. Donc ça, c'était factuellement comment ça s'est déroulé. Et puis maintenant, le fond. Donc, l'équipe des enseignants avait un fond de quelques références communes, notamment le livre de Thomas More sur Utopia. On avait aussi en tête la cité radieuse du Corbusier. Donc, vous voyez ici quelques photos de maquettes. Et l'intérêt, c'est de voir le petit volume ici qui est inséré par la main de l'architecte. Vous voyez ici, il y a un dépassement à l'étage et un niveau plein ici en dessous. Et en fait, ça s'illustre parce que les plans du logement sont en fait des plans qui vont par deux. Donc vous avez un plan ici pour le logement en dessous, un plan pour le logement au-dessus. Et au milieu, vous avez les rues intérieures de la cité radieuse. C'est une époque d'architecture un peu paquebot. Vous voyez un peu la coupe du bâtiment. Voilà, pour vous donner un peu quelques idées de ce qu'on avait en tête. Il y avait d'autres idées sur notamment Yona Friedman, par exemple, la ville spatiale. Donc, c'est des architectures fin années 50, début années 60. Toutes ces architectures où on imaginait des grandes structures tridimensionnelles répétitives qui allaient enjamber les constructions existantes et dans lesquelles on allait pouvoir insérer des volumes qui pouvaient, avec le temps, être déplacés, remplacés, modifiés, etc. Donc il y avait un peu donc c'était des visions un peu utopiques des années 60. On avait aussi un peu ça en tête. Vous voyez un autre dessin ici d'Archizoom où il voulait carrément faire un monument qui allait rentrer dans New York et tout couvrir. Enfin bon, voilà. Donc, des choses un peu brutales. Et encore ici, quelques dessins de Non-Stop City. Donc, ils imaginaient une cité qui allait s'étendre à l'infini avec une répétition des mêmes éléments. Enfin, voilà. Donc, c'était dans un souci pédagogique aussi qu'on avait pris ces références-là. Et puis, les étudiants ont reçu au départ un petit texte très très court qui leur expliquait vraiment l'esprit du projet. Alors, je vous le lis, ça va prendre 2 secondes. Donc, en Uchronie, deux archéologues belges ont découvert dans un lieu qu'ils préfèrent garder secret une curieuse cité. Il semblerait que celle-ci fût dédiée à la pratique de la peinture, cet art qu'aujourd'hui seuls quelques initiés perpétuent et qui consiste à représenter ou à exprimer une idée personnelle en appliquant des matières sur une surface choisie. Les spécificités de chacune des unités constitutives de la cité seraient à ce point proches des particularités de certaines œuvres picturales connues qu'elles permettraient, selon les archéologues, d'identifier avec certitude les artistes qui les auraient occupées. Une énigme reste sans réponse. Comment des peintres de périodes différentes auraient-ils pu se retrouver simultanément dans cette cité? Donc c'était une sorte de légende. Alors, petite phrase d'explication pour Uchronie, qui n'est pas la même chose que Utopie. Utopie, ça vient de topos, le lieu, donc l'espace. Uchronie, c'est plutôt le temps, chronos. Et donc, si vous voulez avoir une idée, dès qu'une personne cherche ce qui serait arrivé ici, elle déplace son discours en uchronie. Donc c'était ça un peu l'idée, puisque d'après le petit texte qui était proposé, des artistes de différentes époques allaient se côtoyer dans une même cité, ce qui est totalement une vue de l'esprit. Bon. Mais on est en bac 1, donc ça vaut franchement la peine de pousser les étudiants dans quelques vues de l'esprit, surtout au départ. Alors le programme du projet, si on rentre un peu plus dans le détail, donc c'était concevoir une unité de la cité des peintres. Elle faisait, donc, en gros, c'est un atelier d'artiste. Le volume capable, donc, c'était 6 mètres sur 6 sur 15. On proposait aux étudiants surtout de travailler par soustraction volumique. Donc, ça veut dire qu'on leur disait de creuser dans le plein. On leur disait, voilà, vous imaginez que vous avez votre parallépipède qui est rempli de plein. Et pour générer l'espace à l'intérieur, vous allez creuser là-dedans. C'était ça un peu l'idée. Ce qui est pas mal parce qu'habituellement, on met un espace et puis après on se dit, tiens, on va mettre des murs autour pour le combler. Ici, c'est l'inverse. Alors, les étudiants, donc, ils devaient concevoir ça. Ils devaient d'abord choisir un artiste et une œuvre d'art de cet artiste-là, particulière, qu'il préférait. Et puis, dans l'unité, donc dans le volume, il y avait une série de fonctions à placer. Donc, un espace atelier, un espace d'exposition, un sanitaire, un rangement de matériel, un point d'eau, un lieu de collation, et il fallait aussi gérer les circulations intérieures-extérieures, ça j'y viens tout de suite. Donc vous voyez quelques fonctions très très simples pour démarrer. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur toute l'année Bac 1, ils ont 4 projets pour l'instant. Ils ont un projet qui concerne la forme et la représentation, puis ils ont un projet où ils font de la fonction, c'est celui-ci. Ils ont terminé maintenant un troisième projet sur la structure. Et le quatrième projet, le projet de fin d'année, là, c'est quand on vient mettre un site réel dans le projet. Donc, ils font une sorte de synthèse, de nouveau, entre la contextualisation, l'implantation de l'objet dans le site et les trois dimensions qu'ils ont vues, la forme, la structure et la fonction. On parle évidemment des autres dimensions de l'architecture, mais ça vient un petit peu en deuxième plan pour la première année. Donc, voilà. Alors, la cité, l'unité, la pièce. Alors, la cité, donc on a montré aussi aux étudiants, c'est un travail d'équipe. Hein, donc, on est 11 enseignants en bac 1. Et donc, à peu près tous les enseignants de l'équipe ont à tout moment fait une photo, fait un document, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui vient d'un travail vraiment d'équipe. Alors, le premier dessin qu'on leur a montré, c'est une sorte de représentation un peu abstraite de ce que pourrait être la cité des peintres avant que les projets ne soient faits. Alors, je vous montre les petites flèches ici parce que l'idée, c'est que les peintres donc, pouvaient se tenir dans leur unité, mais des gens de l'extérieur, soit les peintres eux-mêmes, soit des visiteurs extérieurs, pouvaient rentrer dans la cité, rentrer en uchronie et traverser les boîtes à leur guise. Donc vous vous rendez bien compte que pour les étudiants, il y avait une question de savoir mais qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public dans mon projet, puisque des visiteurs étrangers pouvaient se disperser et puis passer dans une unité, passer par-ci, par-là. Et donc, ça c'est l'unité de base qu'on l'on proposait à chaque étudiant. Et vous voyez qu'il y a deux taches rouges ici, il y a une autre... un autre carré là et un autre carré là. Donc ça, ce sont les quatre accès dans la boîte. On leur a dit, voilà, il y a quatre accès imposés. Il y en a un d'un côté, un de l'autre côté, donc horizontalement. Il y en a un au-dessus et un en dessous pour la progression verticale. Vous voyez aussi que vous avez deux faces vertes ici qui sont en fait les zones réservées pour pouvoir poser les boîtes sur les boîtes. Donc vous voyez, les zones vertes, en fait, ce sont les parties ici, de là à là, de là à là, qui permettent évidemment de supporter les boîtes. Puisque les étudiants allaient grignoter dans leur projet, pour pouvoir reconstituer la cité à la fin, il fallait qu'on soit sûr de la circulation générale, qu'elle soit possible. Il fallait aussi qu'on soit sûr qu'on puisse empiler évidemment les projets. Alors ça, c'est encore un autre détail. C'était simplement pour les aider à voir comment ils pouvaient disposer leurs escaliers dans le volume. Donc si on reprend l'unité de base, ben, il y a évidemment un escalier qui doit pouvoir aller du point zéro l'unité jusqu'au-dessus, jusqu'à la toiture. Et il y a un autre escalier, évidemment, amorcé, qui va vers le bas, quoi. Donc c'était quand même des bonnes contraintes au départ pour les étudiants. Alors ça, par exemple, c'est une frise d'une série de projets qui ont été réalisés. Là, on les voit, ils sont un peu petits, mais on en verra d'autres après pour vous montrer un petit peu. Et ça, c'était dans la palmeraie juste à côté. À la fin du projet, ben, tous ensemble, on a pu réaliser un mur, une cité des peintres à la fin. Alors là, il n'y a pas tous les projets, hein, parce que les projets, il y en avait 300. Donc là, il y en a, je sais pas, une cinquantaine, une soixantaine, pas plus, qui ont été sélectionnés et qu'on a pu mettre. Donc imaginez que ça fait... Enfin, c'est long. Alors ça, c'est quelques photos juste pour avoir le contexte, quoi. Vous voyez un peu... on travaille beaucoup. Donc vous voyez encore quelques vues des différents projets. Et alors, il y a eu un petit échange avec une école de Barcelone dans laquelle il y avait beaucoup moins d'étudiants. Ils étaient 30. Donc c'est un peu... c'est pas la même échelle, évidemment. Et eux ont fait aussi à Barcelone une petite exposition qu'on n'a pas vue forcément puisqu'on était ici avec les quelques maquettes de Barcelone. Donc vous voyez un petit peu le parallélisme. Mais à la fin de la première phase, il y a des scénarios de nos étudiants qui ont été sélectionnés, qui ont été envoyés à Barcelone. Il y a un enseignant de notre équipe qui a fait le voyage et les étudiants de Barcelone ont repris ces scénarios-là et ont continué leur projet pendant que les nôtres continuaient leur deuxième phase. Donc voilà, enfin, petite histoire. On arrive à la troisième partie de l'exposé. Donc ça, c'est l'analyse de cas. Alors, pour ça, je vais vous parler surtout d'un projet en particulier, parce que je le connaissais bien, ça tombait bien, et puis parce qu'il était pas mal pour faire comprendre les différents questionnements. Alors, c'est un essai. Je n'ai jamais testé les questionnements directement sur une analyse de cas empirique, parce que mon travail avait toujours été jusque-là épistémologique, donc théorique. Donc, ça a peut-être foiré, je propose. Alors, ce projet-là, donc c'était une étudiante donc, de Godenzi. Ça, c'est ce qu'elle a remis en tout pour le projet. C'est ce qu'on leur a demandé en tout. Donc, on leur a demandé de faire un scénario sur une page A4 que vous voyez ici. On leur a demandé de faire une analyse à la fin de la première phase, donc la phase d'analyse, dans laquelle donc, il y avait des organigrammes, des dimensionnements, un schéma de partie, l'œuvre choisie, le nom de l'artiste. Et puis, à la fin, dans la deuxième phase, ils ont dû remettre des plans. Donc ça, c'est le projet fini, c'est la synthèse, et une maquette, quoi. Donc ça, comme ça, vous voyez un petit peu le type de document qu'ils ont dû remettre. Alors, le scénario de cette étudiante-là, donc elle avait pris Miro. Et petite citation, juste pour mettre le contexte. Donc Miro, il dit dans une interview, mais très tardivement, « J'ai essayé de traduire les hallucinations que la faim produisait. » Je ne peignais pas ce que je voyais en rêve, comme diraient aujourd'hui Breton et les siens, mais ce que la faim produisait. Alors pourquoi il se détache de Breton? C'est parce qu'il tient à dire qu'il n'est pas surréaliste, parce que tout le monde l'a mis dans le surréalisme, mais lui n'en voulait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est juste avant, j'ai essayé de traduire les hallucinations que la faim produisait. Donc c'est un artiste qui, quand il a travaillé à Paris pendant un moment, il avait tellement pas d'argent qu'il savait absolument pas se payer à manger. Donc je crois qu'il avait un repas par jour au maximum. Enfin bon, il avait vraiment pas d'argent. Et donc il était dans un état d'affaiblissement total. Et comme il vivait par et pour sa peinture, il était tellement épuisé que finalement il avait des hallucinations et ça lui permettait de réaliser ses peintures. Donc c'est pas comme les surréalistes qui essayent de représenter ce qu'ils rêvent. Lui, ici, c'est carrément, il dit, c'est les hallucinations et c'est comme ça que je fais mes tableaux, quoi. Bon, je caricature un peu. Donc, elle est partie de ce constat-là. Elle a choisi ici une œuvre qui est le carnaval d'Arlequin. Oups. Et après, en discussion à l'atelier, elle s'est penchée aussi sur le mythe de la caverne de Platon. Donc vous voyez une illustration ici. Donc pour rappel, il y a, en schématisant aussi très très fort, il y a le monde des idées qui est distingué du monde des choses. Seuls les philosophes, après beaucoup d'ancienneté et beaucoup d'exercices, peuvent progressivement essayer d'atteindre les idées, le monde pur des idées. Le commun des mortels, lui, en général, n'est conscient que de ce qui se passe autour de lui, le monde qui l'entoure. Et l'histoire de la caverne, c'est de dire que l'homme moyen, ben, il est au fond d'une grotte, assis face à la paroi, et il y a des objets qui sont posés, des objets du monde qui sont derrière lui. Le soleil éclaire, enfin rentre dans la grotte, éclaire les objets et projette une ombre sur la roche de la caverne, et les hommes, le commun des mortels, il n'est capable que de voir en fait le reflet des objets, mais pas les objets eux-mêmes. Donc c'est une sorte de mise à distance dans la connaissance du réel. Alors, voilà, on est parti dans tout ça à l'atelier. Donc mélanger Miro, les hallucinations, le Platon. Et puis, elle a proposé progressivement un projet qui allait tenir compte de ces idées-là. Elle a placé ici au centre un espace qu'elle appelait un espace d'hallucination, au centre du projet. Et l'idée, c'est qu'une grande ouverture ici, enfin en tout cas une ouverture très très haute, très très fine, bien orientée vers le sud, allait permettre un apport de lumière dans cet espace d'hallucination. Alors, elle a positionné ici deux bacs, ce sont des bacs pour ceux qui n'ont pas l'habitude des plans, ici, là et là. Et l'idée, c'était que Miro ou les visiteurs allaient ramasser des détritus ou des déchets dans la cité, ailleurs, dans les autres unités, et elle est entreposée ces déchets-là à l'entrée. Comme ça, quand un visiteur passe, première chose, il arrive dans le projet par ici, il se retrouve face à un bac rempli de déchets, il se pose des questions, des petits objets hétéroclites, des objets retrouvés. Et puis ici, il y a une petite porte, un peu discrète sur le côté. Il peut prendre un objet, l'amener là, et là, il y a des crochets qui sont accrochés au plafond. Et le visiteur peut mettre un objet, un autre visiteur peut en mettre un autre, un troisième peut décrocher un objet et le remplacer par autre chose, c'était un peu l'idée, le concept. Et Miro, qui lui est très... Enfin, il n'aime pas trop se montrer, il n'aime pas trop être en société, il reste dans un atelier relativement fermé, il a simplement une ouverture orientée vers ce mur-là, le soleil vient passer à travers les objets, projette l'ombre sur le mur, et Miro peut... avec ses hallucinations, représenter d'abord sur des croquis, sur papier, à son bureau, des idées de tableaux ou des motifs. Et puis après, il peut aller les peindre dans son atelier. Donc ça, c'était le principe général, quoi. Et l'autre idée, c'est que la circulation ici qui montait, donc qui passait d'une unité à l'autre, elle n'avait pas d'intersection avec l'atelier. Et donc les gens ne pouvaient que longer en fait le volume. La seule chose qu'ils ont, et là on le voit pas sur la coupe, c'est qu'ils ont une petite ouverture un peu discrète pour pouvoir espionner l'air de rien Miro, mais en hauteur, sans que lui n'en sache rien, comme ça il n'est pas dérangé. Donc ça c'était l'esprit du projet. Voilà la maquette, j'aurais dû expliquer avec la maquette. Ben là vous voyez l'ouverture ici avec l'escalier, celle dont je parlais. Vous voyez une ouverture là, le pupitre ici pour Miro. Là, on le voit pas bien parce que forcément le volume est resserré, les objets qui pendent, et ici, en fait, il y a une grande ouverture pour la lumière. Et là, vous avez les bacs pour les objets. Ben voilà, ça, c'est les objets. Alors, si maintenant on essaye d'expliquer, de montrer les questionnements. Alors, la première famille de questionnements, il y a le contexte, niveau d'espace, niveau de temps et configuration dimensionnelle. Alors, le contexte, la question du contexte était présente chez tous les étudiants. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient leur projet, qui était l'unité, mais l'unité était dans un contexte plus global, la cité, et surtout, au sein de leur unité, ils devaient gérer les espaces de leur projet entre eux, donc les pièces en fait. Et donc, quelque part, ils étaient dans une sorte de glocal entre le global et le local. Donc, à tout moment du projet, les étudiants étaient obligés de tenir compte du contexte puisque les visiteurs pouvaient arriver, puisque les boîtes devaient se superposer et ainsi de suite. Donc du coup, quand un projet était défini, à l'atelier, il fallait au moins 6 autres maquettes pour pouvoir avoir une appréhension juste du contexte de l'objet. Ce qui était pas mal parce que sur les tables, ça faisait tout de suite. Bon, bref. Alors, ici, niveau d'espace, donc le deuxième questionnement, on peut l'approcher, par exemple, avec ce projet-ci. Donc, c'est un autre projet d'étudiant. Et lui, il a travaillé de la boîte dans la boîte. Donc, vous voyez ici, ça, c'est une boîte. C'est un volume qui devait coulisser sur des rails. Les rails sont ici en dessous. Et donc, lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est que tout son volume ici, c'est devenu de l'espace public. Et le seul espace privatif qu'il a réalisé, finalement, dans son unité, c'est cette petite boîte. Donc, lui, il jouait avec une différence de niveau d'espace dans le projet. Alors les niveaux de temps, c'était difficile de trouver une image de ça, alors finalement c'était peut-être plus simple de simplement dire que forcément en uchronie, les niveaux de temps étaient tout le temps mis en jeu, mis en tension, parce que des artistes de périodes différentes pouvaient se côtoyer, se croiser, etc. Donc il y avait un flou total sur la temporalité en uchronie. Alors les configurations dimensionnelles, ça c'est un petit exemple de Qing, donc c'est une représentation ici de la Villa Savoie, c'est un bâtiment très connu chez les architectes du Corbusier, et vous voyez que Qing il a représenté ici une décomposition en différentes dimensions, la dimension, les volumes, la structure, l'enveloppe, les circulations, et ainsi de suite. Dans le projet par exemple dont je vous parlais avec Miro, mais ici, clairement, la dimension principale à partir de laquelle l'étudiante a vraiment démarré son projet, c'était finalement la dimension symbolique. C'était pas la dimension vraiment fonctionnelle des choses. Elle est partie sur la dimension symbolique, sur l'idée des hallucinations de Miro, etc., sur tout ça. Et puis après, elle a pu, à partir de cette dimension-là, aller travailler la fonction, la forme, pas encore la structure, parce qu'ils n'y sont pas encore, et ainsi de suite, quoi. Alors donc, ça veut dire que le questionnement des dimensions, mais en général, d'après ce que j'ai observé sur les différents projets, souvent l'étudiant a une dimension prépondérante qu'il préfère, qu'il valorise, une ou deux, et puis les autres lui sont simplement pour lui secondaires et visés à travers cette dimension prépondérante. Ça, c'était les questionnements contextuels. Alors, les questionnements formels, en général, là-dedans, donc, il y a la question des ensembles, donc, c'est-à-dire l'agrégation d'éléments, mais qui ne sont pas encore hiérarchisés. Il y a les zones d'influence, les figures fond et rétroduction. Alors, on va expliquer un petit peu. Pour les zones d'influence, c'est quoi? C'est simplement se dire que quelqu'un qui va concevoir un projet, il va avoir tendance à projeter sur les objets ou sur les êtres vivants qui vont vivre dans le projet de l'influence. Donc si on prend cet exemple-ci, c'est un autre dessin, Pierre von Meis, lui par exemple, sur ces schémas-là, il représente différentes formes et il montre avec les petits traits tillés l'influence que ces formes ont sur l'espace. Donc quand vous avez un coin, ça génère quelque chose dans l'espace. Quand vous avez un mur droit, ça sépare l'étendue, donc du coup, il y a un côté et il y a un autre côté, donc ça génère quelque chose. Quand vous avez un alignement de colonnes, on voit une ligne, et ainsi de suite. Donc il y a potentiellement des zones d'influence pour à la fois les objets et les personnes. Alors ici, c'est assez dur à représenter, donc c'est toujours sur le projet de Ludovica. Donc je vous ai montré, par exemple, que les bacs ici, mais pendant toute la durée du projet, ils ont changé de dimension. Elle les a fait carrés, elle les a fait un peu plus allongés, elle les a modifiés, bougés, etc. Tout simplement parce qu'en fonction de la forme qu'elle donnait au bac, l'influence du bac sur l'entrée du projet, ici, changeait directement. Si le bac était trop massif, les personnes allaient peut-être moins facilement rentrer. S'il était trop faible, on n'allait pas comprendre qu'on rentrait dans l'unité. S'il était trop aigu, on ne se sentait pas accueilli, et ainsi de suite. Donc, c'est par exemple une manière de montrer les zones d'influence. Il y avait la même chose avec le petit bout de mur ici. Parce que juste dans l'entrée, le mur aussi a changé plusieurs fois. Il était plus long, plus court, un peu plus courbé, un peu plus en face, etc. pour les mêmes raisons. Vous avez aussi, par exemple, dans l'ouverture de Miro, si vous regardez bien, vous allez voir que les deux bords des murs sont légèrement écartés, donc il y a un angle. Là aussi, c'est volontaire de la part d'étudiante, c'est pour générer une zone d'influence plus large que l'ouverture simple, de manière à avoir une plus grande vue sur le mur. Alors, ça c'est la figure fond, donc ça c'est un questionnement qui concerne tous les mécanismes de la perception. Alors il y a les lois de la Gestalt, il y a des lois perceptives avec Piaget, il y a plein de lois possibles. Ici, dans le cadre du projet en architecture, mais par exemple, l'étudiante a travaillé avec le fait de pencher par exemple les plafonds du projet pour accentuer encore le fait que l'on rentre dans l'espace d'un côté comme de l'autre. Elle a par exemple joué sur la perception avec la lumière du soleil, donc qui venait éclairer les objets qui pendaient et qui provoquaient justement les ombres. Elle a joué sur les visions, donc indirect ici, indirect là, et ainsi de suite. Donc il y a plein de jeux pour les utilisateurs futurs du projet sur la perception. Il y a des jeux aussi sur la couleur, parce que l'intérieur du volume, bon, c'est peut-être un peu premier degré, mais il est bleu nuit, quoi, donc pour toujours un peu dans l'esprit du rêve et de l'hallucination. Alors la rétroduction, c'est quoi? C'est l'idée de faire des hypothèses en début de projet à partir de quelques informations, de quelques éléments que l'on connaît, et à partir de cette hypothèse, imaginer ce que pourrait être le projet plus tard. Donc concrètement, c'est faire un parti, c'est trouver une idée génératrice. Alors ça, par exemple, l'étudiante, son premier jet, enfin le premier schéma qu'elle avait fait à l'atelier, c'était de se dire, voilà, ici j'ai une paroi transparente, là j'ai quelques objets qui sont accrochés, Miro est ici, en lotus, la lumière du soleil vient derrière lui et projette les objets sur le mur. C'était un peu le premier jet, la première idée. Et vous voyez que dans le projet final, évidemment, le projet représente bien cette idée, même si ce n'est plus tout à fait la même mise en place, évidemment, qu'au départ. Et donc, la rétroduction, la question de cette rétroduction, c'est de pouvoir faire, à un moment donné, des hypothèses, parce qu'on ne sait pas encore à quoi on va arriver, mais à partir de quelques éléments qu'on connaît, déjà avoir une idée. Et puis, si l'idée est bonne, si le parti est bon, en général, à la fin du projet, à rebours, on peut se dire, oui, ce dessin-là, il était vraiment bien, parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu trouver mon projet. Elle a aussi réalisé des organigrammes, donc ça on fait, on représente les différentes fonctions du projet dans des bulles, mais de nouveau, c'est en bac 1, c'est au début pour bien comprendre. On élargit ou on rétrécit les parois de ces bulles pour montrer le côté privatif ou non des choses. On montre un petit peu l'orientation. Et vous voyez ici que sur son organigramme au départ, on a l'espace exposition, parce que ça, je ne vous ai pas dit, évidemment. Et le tableau, il est là. Donc pour elle, l'espace exposition, c'est quelque chose qui reste hors de l'atelier de Miro et qui est assez réduit. Donc l'espace d'exposition est là. L'atelier est ici. Vous voyez que les fonctions sanitaires et collation sont là. Et vous voyez aussi que l'espace hallucination est à la charnière un peu entre les deux. Vous voyez qu'à la fin, c'est aussi ça, c'est aussi vers ça qu'on tend. La seule différence, c'est que l'espace collation a totalement disparu puisque Miro mangeait pas. Donc, bon. Mais ça se tient. Alors, ça, c'est un petit schéma qui peut représenter ça avec le soleil, etc. On arrive au questionnement structurel. Il ne reste plus que deux familles, courage. Alors, il y a les structures, les limites, les éléments et les relations. Alors, les éléments et les relations, je n'ai pas mis d'exemple visuel parce que simplement, c'était pas évident. Pourquoi ? Parce que comme le projet se faisait à partir du plein et qu'on venait grignoter le plein et qu'on venait travailler par soustraction, mais en fait, les éléments ne pouvaient pas être facilement définis, pris séparément, puisqu'en fait, c'est une grosse masse unique, mais qui est percée. Quoi. Donc, c'était pas évident. On pourrait dire, oui, le bac avec les objets, c'est un élément du projet, mais en soi, c'était pas évident. Même chose pour les relations. Les relations entre les éléments n'étaient pas évidentes à mettre en place. Maintenant, il va de soi que dans la tête de l'étudiante et des autres étudiants de l'année, dans tous les projets, ils ont mis en relation des choses, des éléments, dans leur projet pour pouvoir concevoir. Par contre, la distinction sur les limites, elle était très présente dans les projets et surtout dans les représentations externes. Parce que comme on travaillait par soustraction volumique, on avait un rapport presque topologique avec la matière, donc c'est-à-dire en continuité, la surface était continue. Donc si on parle des limites, il y avait des jeux sur le public et le privé, puisque je vous rappelle que les visiteurs peuvent passer partout dans la cité. Les étudiants devaient se confronter à cette question, ils ne pouvaient pas simplement faire leur projet et puis dire « Ah zut, quelqu'un a traversé mon projet ». Bon, ça n'allait pas. Alors, il y avait des jeux sur les percements, les jeux de lumière, les pleins et les vides. Donc ça, c'est un autre projet, par exemple, où vous voyez le nombre de percements différents et forcément les jeux de lumière ou d'ambiance qui se créent sur les parois. Donc on le voit très bien ici, c'est toujours le même projet. Vous voyez un petit peu à tous les étages la lumière, le jeu de la lumière. Donc là aussi, la limite est travaillée, mais de manière à réguler la lumière. De nouveau, le même projet avec le petit volume, la boîte dans la boîte, là, sur rail. Ben, là aussi, le travail sur les pleins et vides, ben, il est très différent, puisque là, c'est carrément une ossature. Le volume a complètement disparu. C'est tellement fait grignoter que finalement, ben, on n'a plus que les arêtes. Et le seul volume qui est encore un peu plein, c'est finalement cette petite boîte qui est dans la boîte. Donc là aussi, il y a un jeu énorme sur la question des limites. Alors, Deux projets en comparaison, pas pour leur qualité, c'est pas ça le but. Ici, vous voyez très bien, dans ce projet-là, la boîte est encore clairement visible. Quoi. Les parois sont verticales, horizontales, pleines. Vous voyez qu'en plan, on voit la même chose. Et vous voyez que les parois secondaires viennent se mettre simplement à l'intérieur de l'espace. Là, on est plutôt dans la destruction de la boîte. Là, on commence à ne plus trop voir la boîte. Vous voyez un petit peu la dialogie qui s'installe, par exemple, du point de vue de la limite entre les pleins et les vides. On passe aux questionnements fonctionnels, c'est les derniers. Alors là, il y en a un peu plus. Il y a les systèmes, les échanges de matière, d'énergie, d'information, la rétroaction, circularité, totalité, émergence, les règles, les finalités, l'équifinalité et l'équilibre. Alors, pour les échanges donc de matière, d'énergie, d'information, donc en systémique, il y a quand même pas mal d'auteurs qui sont d'accord là-dessus, c'est à discuter, mais il y a des chercheurs qui disent que dans l'univers, il y a trois flux fondamentaux, la matière, l'énergie, l'information. Historiquement, ils sont apparus les uns après les autres, d'abord la matière, puis l'énergie, puis plus récemment l'information. Et c'est possible qu'un jour un chercheur nous dise « Ah ben il y en a un quatrième, on verra bien, dans 20 ans, 30 ans, je ne sais pas ». Mais donc, les échanges ici pour le projet, puisque ce n'est pas une enveloppe chauffée, il n'y a pas vraiment d'échange sur les déperditions thermiques et tout ça. On n'y est pas encore en première, on ne parle pas encore d'isolation et tout ça, sauf au quatrième projet. Par contre, les échanges de personnes, ou plutôt d'informations, puisque chaque personne est support d'informations et de matière et d'énergie, ben là on peut voir ça par exemple aussi en comparaison dans ces deux projets. Dans ce projet-ci, on voit clairement que on a une circulation horizontale qui relie les deux côtés de la boîte, donc en gros les deux arrivées-sorties de la cité, alors que dans ce projet-là, si vous regardez bien, ici on a un garde-corps, il y a une circulation d'un côté, il y a une circulation de l'autre, mais il n'est pas possible de passer directement de l'un à l'autre. Donc vous voyez de nouveau, en comparant deux projets, qu'à partir de la même question, des étudiants choisissent un petit peu la polarité vers laquelle ils veulent aller. Soit on communique, on met en place des échanges, soit on n'en met pas. Alors la rétroaction, là aussi c'était assez compliqué de montrer une image de projet qui pourrait montrer la rétroaction. Donc du coup je reprends deux illustrations que vous avez déjà vues avant, simplement pour dire que la rétroaction, elle est là à l'atelier simplement parce que le processus donc est circulaire, parce qu'il y a de l'autoréflexivité entre l'étudiant et son projet, mais aussi entre l'étudiant et les autres étudiants avec qui il parle de son projet, ou entre l'étudiant et les enseignants avec qui il parle de son projet. Dès qu'il y a ces échanges-là, il y a des interactions, des influences des différentes personnes les unes sur les autres, et forcément le projet, le processus va lui aussi être influencé. Donc voilà, pour la rétroaction dans le projet, c'est plutôt la mise en relation justement de l'autoréflexivité, donc Marcel Duchamp, qui est là, avec le côté circulaire et itératif du processus. Alors, pour la circularité, là aussi, impossible de matérialiser ça avec une image de projet. Donc, je montre autre chose et puis je vous explique. Donc, l'idée de la circularité, tout le monde connaît un peu l'effet papillon. Un battement de papillon quelque part, ça pourrait faire une tornade ailleurs. Bon, c'est un peu une métaphore. Mais il y a aussi la possibilité de comparer, par exemple, le jeu de domino et le Mikado. Dans un jeu de domino, c'est une causalité linéaire. C'est-à-dire que si on touche une pièce, toutes les autres pièces vont s'écrouler les unes après les autres et ça va se faire en ligne, si vous voulez, directement. Dans le jeu de Mikado, par contre, l'idée, c'est que si vous enlevez une barre, toutes les autres barres peuvent bouger. Donc, au sein du système, tous les autres éléments, toutes les autres relations peuvent se modifier parce que vous avez touché à quelque chose. Un projet d'architecture, c'est évidemment plutôt de l'ordre du Mikado. Quand on est en train de concevoir un projet, à tout moment, par petites touches, on va modifier une petite chose et tout le reste du projet, dans sa globalité, va être modifié. Ou en tout cas, va être mis en jeu. Donc ça, c'est le principe de circularité. Et bon, tous les étudiants ont été confrontés à ça. Maintenant, trouver une image de ça, c'est bon. Alors, totalité. Une petite phrase pour les non-architectes, pour mettre un contexte. Car de même que dans le corps humain, il y a un rapport entre le coude, le pied, la paume de la main, deux doigts et les autres parties, on ne dit pas lesquelles. Ainsi, dans les ouvrages qui ont atteint leur perfection, un membre en particulier fait juger de la grandeur de toute l'œuvre. Donc ça, c'est Vitruve, qui est, si je ne me trompe pas, 4 siècles après ou avant Jésus-Christ, je ne sais jamais. Bon, bref. Donc c'est un architecte romain, c'est le premier traité d'architecture qui nous soit parvenu, écrit, etc., etc. Et donc lui, par exemple, il expliquait déjà que un projet d'architecture, un modèle architectural dans sa tête, c'est en soi une totalité, une globalité, et que chaque élément de cette totalité doit pouvoir est lié aux autres parties. Et il y a une illustration de ça, par exemple, dans un traité de Martini, ici, où à la Renaissance, il voulait humaniser le corps architectural, comme on disait, et donc... dans cette représentation, vous voyez qu'ils imaginaient que l'église, l'édifice, était pareil à un corps humain et que donc toutes les parties étaient utiles et nécessaires et que donc un bon projet, c'était avant tout atteindre une totalité. Alors l'émergence, donc ça c'est encore un autre questionnement. Alors là aussi, l'idée de l'émergence, c'est comme l'eau, donc comme la molécule d'eau. Si vous prenez deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène, vous les mettez ensemble, ça fait de l'eau, et l'eau a une propriété que les atomes pris séparément n'avaient pas, c'est-à-dire qu'elle est liquide en fait. Si vous prenez de l'oxygène, c'est gazeux, si vous mettez ça, et d'hydrogène aussi, si vous mettez tout ensemble, ça devient liquide. Donc, l'émergence, c'est le fait qu'une propriété puisse apparaître à un niveau supérieur, si vous voulez, mais pas supérieur dans le sens qu'il est mieux que les autres, mais à un autre niveau, à un niveau méta, qui n'était pas présente dans les différentes parties du projet. Ici, si on reprend le projet sur Miro, pour moi, une fois que le projet était réalisé, je trouvais que le projet en soi avait une dimension supérieure que simplement les propriétés, par exemple, du petit objet détritus qui était accroché à son crochet ou du bac ou d'autres choses, quoi. C'était simplement, du point de vue de la symbolique, c'était l'installation d'un véritable lieu architectural. Alors les règles, il y avait énormément de règles dans ce projet, puisque comme vous l'avez vu, on leur a mis des règles pour les circulations, on leur a mis des règles pour la taille des volumes, la taille des unités, etc. Alors cet étudiant-là, par exemple, lui, il s'intéressait à un artiste que moi je ne connaissais pas, mais qui en fait se faisait passer pour un truand notoire, qui devait aller taguer sur des façades et puis s'encourir rapidement parce que la police ou d'autres gens pouvaient l'attraper. Et donc, il avait imaginé dans son projet, ici, un espace qu'on pouvait facilement fermer de manière à ce qu'il puisse après monter à l'étage, ici, et être à l'abri si des personnes l'avaient poursuivi. Alors, bon, je raconte tout ça, mais pourquoi ? Parce que, ici, lui, il a contourné une règle du projet. Simplement parce qu'il a dit « Mon œuvre d'art, je ne peux pas l'exposer dans mon projet puisque lui, le but de son art, c'est justement d'aller taguer ailleurs. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réalisé une œuvre qu'il est allé coller sur une autre unité de la cité quand on a fait l'exposition. Donc voilà, l'œuvre n'était pas dedans et la règle était... Donc il avait dérogé à la règle, mais en même temps, le fait qu'il ait dérogé à la règle, c'est ça qui faisait tout son projet. Tout son projet reposait là-dessus. Deux autres projets, et ça c'est intéressant parce qu'ils ont utilisé le même peintre et la même œuvre d'art. Mais ils ne l'ont pas traité de la même manière, à un détail près. C'est que l'œuvre en question, les Guernica de Picasso, ben, ça fait environ 3,50 m sur 7,80 m. Alors vous imaginez le truc. Et eux aussi, ils ont dérogé à la règle. Vous voyez que le tableau dépasse du volume, parce que forcément, il fallait beaucoup plus de place. Ici, ça se voit peut-être moins bien parce que c'est de côté, mais si vous regardez bien, ici, ça dépasse en fait du bord du volume aussi. Et donc, vous voyez que deux étudiants ont dérogé à la règle du bloc capable qu'on leur avait donné au départ, avec le même tableau, mais dans deux ateliers complètement séparés, et donc sans peut-être se connaître, je ne sais pas. Et donc là aussi, la question des règles faisait le projet. Alors, la finalité, alors ça c'est toujours un peu plus compliqué à expliquer. Ici, dans le projet donc, de Miro, l'étudiante a mis en place, a projeté, aussi bien sur le projet que sur les personnes et l'artiste à l'intérieur du projet, des finalités. Alors quand on parle de finalité, c'est bien le modélisateur du système qui va projeter sur les gens des intentions. Ça ne veut pas dire pour autant que le modélisateur croit forcément à un dieu suprême ou à un finalisme quelconque qui va orienter tout le projet. C'est pas ça. C'est simplement que très rationnellement, au sein du projet, pour aussi bien les objets que les sujets, il va se poser la question, mais qu'est-ce que veut être ce projet? Que veut être l'artiste? Où est-ce qu'il veut se trouver? Comment il veut être? Etc. Et donc, le scénario qu'ils ont fait en début de projet, pour expliquer un peu une journée type de leur artiste, ben évidemment, ça les a aidés. Alors ici, ben voilà, la finalité projetée sur Miro, c'était vivre par la peinture, donc dans le dénuement total et halluciner complètement. La métafinalité projetée sur l'unité, parce que c'était quand même une étudiante d'architecture, c'était de faire de cette unité un lieu, faire émerger un lieu à partir de cette chose. Et la sous-finalité projetée sur les visiteurs, c'était de se promener dans la cité, évidemment, d'être curieux. Donc, est-ce que je vais prendre ou pas un objet dans le bac? Mais aussi d'être un peu voyeur, donc d'essayer de regarder par la fenêtre pour voir Miro en train de peindre sans qu'il le sache. Donc voilà, vous voyez qu'elle avait identifié une métafinalité, une finalité et une sous-finalité. Il y en aurait sûrement d'autres. Et elles sont évidemment liées entre elles, hein. Alors, l'équifinalité ou la multifinalité, en architecture, ici, c'est interprété comme ça. C'est l'idée qu'à partir d'un programme unique, chaque étudiant va produire un projet différent. Ce qui est quand même fabuleux. Et à la fois, une fois qu'on a vu tous les projets, bien différents, on peut se rendre compte qu'il y a quand même des similitudes ou des ressemblances entre projets, quoi. Donc, d'un côté, ben, il y a une démultiplication des possibles, et d'un autre côté, il y a une réduction des possibles. Alors, équilibre ou déséquilibre, de nouveau, ici, c'est montré de manière un peu spatiale ou formelle, parce qu'on est chez les architectes, mais quand on parle d'équilibre, c'est pas forcément uniquement un équilibre mécanique avec une descente de charge, ça peut être un équilibre dans n'importe quelle dimension. Alors là, juste un petit exemple, ben voilà, ici il y a des jeux d'équilibre volontaires entre des parois dans le projet, et il y a aussi des déséquilibres volontaires simplement pour modifier l'espace et pour lui donner de la tenue. Ici par exemple, il y a un déséquilibre qui est provoqué, c'est volontaire aussi, parce que le visiteur arrive par la porte, il ne sait pas encore trop ce qui lui arrive, il se retourne et puis là, il a un agrandissement d'espace. Bon, voilà, petit détail. Et donc, là, je vous montre un ou deux équilibres, déséquilibres traités formellement, mais ça pourrait être dans d'autres dimensions. Ça pourrait être fonctionnellement, par exemple. Trouver l'équilibre entre, on le voit pas, il est en dessous de mon schéma, mais l'espace réservé, par exemple, au sanitaire et l'espace réservé à l'atelier ou d'autres types d'équilibres. Alors, on arrive aux conclusions. Alors, c'est des conclusions... c'est un essai, quoi. Hein. Donc, on verra ce que vous en pensez. Donc, l'un et le multiple, comment sortir de la boucle? Parce que moi, j'ai une formation aussi de systémicien, donc a priori, j'aime bien les boucles. Mais je me suis posé la question si parfois, il ne fallait pas en sortir. C'était ça l'idée. Parce que je voyais les étudiants à l'atelier, je me disais, bon, il y a quand même des moments où ils doivent le produire, ce foutu projet. Il y a un moment où il faut s'arrêter, quoi. Donc, on ne peut pas tourner tout le temps ça. Du coup, je me suis intéressé à cette illustration-là, qui est un ouroboros, comme ça que ça s'appelle. En fait, c'est un symbole alchimique. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas faire d'alchimie. C'est un serpent qui se mord la queue. C'est un symbole très... Enfin, qui est là depuis des siècles. Et celui-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un codex du XIe siècle, et dedans, il y a une illustration. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai traduite, parce que je ne sais pas traduire ça, mais c'est le N-Tupan, l'un et le multiple. Et en fait, ce symbole, le serpent qui se mord la queue, c'est le symbole de l'éternel cycle et retour des choses, donc le retour de la nature, le retour des saisons, etc. Donc l'imperturbable et éternel cycle des choses qui reviennent. Mais en même temps, quand on regarde le dessin, il y a bien une boucle, mais il y a aussi le serpent qui se mord la queue, donc il y a une rupture quelque part. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait. J'y viens après. Et puis, une autre image, je n'ai trouvé que l'année, parce que je n'arrive toujours pas à trouver qui a fait cette photo. Ça, c'est une photo qui est faite avec le même type de dispositif que le multiportrait là, du champ. C'est juste que là, on a mis des miroirs, mais en parallèle, pour dupliquer à l'infini, en fait, le même portrait. Là-dedans, ce que j'aimais bien, c'était l'idée de régression à l'infini, justement. Donc le fait que, si on est dans une boucle systémique, on peut toujours emballer la boucle et, à la limite, on peut ne jamais s'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? L'ouroboros. Donc, a priori, on dirait que c'est une représentation d'une boucle circulaire. Mais en fait, quelque part, elle est linéaire. Pourquoi ? Parce qu'elle n'arrête pas de tourner. Et à force de tourner, finalement, ça devient un peu récurrent. Le serpent, donc, il se mord la queue et il se mange lui-même, en fait. Donc, ça veut dire qu'à force de tourner, le serpent, il ne sait plus pourquoi il tourne. Et rien ne peut émerger de ça. Ça tourne saut et rien ne peut sortir de ça. Alors, les outils de la systémique, ils peuvent produire des régressions à l'infini vers le plus grand ou vers le plus petit. Si c'est mal utilisé, si on utilise mal les outils de la systémique, on peut vraiment devenir fou. Pourtant, le serpent se mord la queue pour engager une nouvelle boucle. Donc, il y a un changement qui émerge à un niveau supérieur. Donc là, vous me voyez venir avec le concept d'émergence, enfin pour les systémiciens. Alors, pour éviter ces effets de bouclage, donc les outils systémiques doivent être utilisés, mais rationnellement. Ce n'est pas parce qu'on est systémicien qu'on fait n'importe quoi, c'est tout à fait rationnel. En complémentarité avec ceux de l'analytique. Alors, la réduction des possibles avec la méthode analytique, elle équilibre donc l'augmentation des possibles de l'approche de la pensée systémique. C'est des choses qu'on a vues avant, mais synthétisées. Alors, le modélisateur, donc, il doit limiter les niveaux d'observation pour éviter les régressions à l'infini. La seule manière qu'il a de ne pas devenir fou, c'est qu'il doit essayer d'équilibrer entre, d'un côté, le fait de toujours recontextualiser les choses et, d'un côté, le fait de toujours spécifier ou spécialiser les choses. Alors, je me disais, peut-être qu'au minimum, il faudrait au moins un niveau macro et un niveau micro d'analyse. Alors, en architecture... L'architecte, il est interdisciplinaire, donc ça veut dire qu'il est habitué à travailler avec des personnes d'autres disciplines en cours de projet. Et il a une visée transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il adore, et parfois c'est son défaut aussi, c'est la qualité de son défaut, ou le défaut de sa qualité, il adore essayer de s'incruster dans d'autres disciplines et d'essayer de voir ce qu'il peut en tirer pour son projet, pour ses projets. Mais, à force d'aller d'une dimension à l'autre, quel est le point de départ du projet ? Parce que, à force d'être transversal, multidisciplinaire, comment est-ce qu'on fait pour quand même assumer son rôle d'architecte ? Parce que l'architecte, il ne doit pas pour autant oublier son savoir disciplinaire, son savoir propre. Alors, l'architecte, il doit régulièrement prendre parti sur la question posée pour stopper le processus qu'il génère lui-même. Alors ça paraît aberrant, mais c'est ça. On fait un processus, on fait un projet d'architecture, on met en place un processus, il est itératif, il est cyclique, on essaye d'être contextualisé, mais il y a un moment où le chantier doit démarrer, on doit stopper le processus de conception et on doit produire un vrai bâtiment unique. Alors l'architecte, il cherche donc la complémentarité entre un processus volontairement circulaire, itératif et autoréférentiel et une commande unique et rationnelle du maître de l'ouvrage. Il cherche aussi la complémentarité entre un modèle architectural, donc l'image mentale du projet, le N2PAN perpétuel, et un édifice réel unique. Donc le concepteur, il équilibre le projet entre la réduction des possibles avec des règles précises. Ici j'ai mis pour l'unité, ça fait référence au projet. Donc on va mettre des règles précises sur l'unité pour réduire un petit peu le champ. Mais à la fois, on va augmenter les possibles en contextualisant cette unité dans la cité. Donc, vous voyez une sorte d'équilibrage. Alors le concepteur évite les régressions à l'infini avec trois niveaux de travail aussi dans le cadre de ce projet-ci, donc la cité qui est le macro, l'unité le méso et la pièce, l'espace à l'intérieur qui est le micro. Alors si on devait critiquer un peu les questionnements architecturaux, parce que bon, étant donné que c'est une étude de cas, est-ce que la théorie tient quoi ? Alors en théorie, les questionnements sont généraux, ils s'appliquent à tous les projets analysés, j'en reste persuadé. En pratique, l'étudiant assimile chaque questionnement à une dimension de son projet, mais il a conscience de l'interdépendance des phénomènes. Les étudiants, naturellement, le savent. Ils ne sont pas bêtes, ils savent que les choses sont liées, que les choses s'en mêlent. En pratique, l'étudiant exprime ses questionnements par des concepts dialogiques, qui l'aident à situer son modèle architectural. Par exemple, et c'est pour ça que j'ai un peu insisté lourdement quand on l'a montré, mais si on prend le questionnement des limites, il y a des étudiants qui vont travailler sur l'espace entre ce qui est fermé et ouvert, en ce qui est plein et vide, en ce qui est public et privé. Et donc, pour utiliser le questionnement « les limites », en fait, les étudiants vont définir des sortes de polarités entre lesquelles ils vont se situer chaque fois, vis-à-vis de leur projet. En pratique, les questionnements ont tendance à être spatialisés. Les architectes sont des spécialistes de l'espace. Il n'y a rien à faire dans tout ce que j'ai montré. Chaque fois qu'on prend un questionnement, l'espace n'est jamais loin. Il y a toujours une manière de l'interpréter, de le représenter, de le formuler, qui se fait spatialement. On ne peut pas faire autrement, on est comme ça. Alors le scénario aide l'étudiant à situer son modèle par rapport à ses concepts dialogiques. En fait, comme ils ont dû réaliser un scénario de leur artiste, du choix de leur œuvre et de la journée type de l'artiste, mais grâce à ce scénario, ils ont eu des données factuelles pour pouvoir se dire « Ah ben tiens, je serai plutôt vers le privé, vers le public, etc. » Alors, en général, mais je ne suis pas sûr à 100% de ça, l'étudiant rend une dimension prépondérante dans son projet, et il en néglige l'une ou l'autre volontairement pour aboutir au projet. Souvent, même avec la meilleure volonté du monde, mais finalement, pour pouvoir produire le projet, en général, on finit par quand même négliger un tout petit peu l'une ou l'autre dimension et à rendre l'une ou l'autre dimension plus importante. Chez le truc de Miro, là, c'était une dimension symbolique, par exemple, qui était plus importante. Voilà. Alors, les rétroactions, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a des références d'autres projets. Aux étudiants, on leur montre, évidemment, soit dans d'autres cours en histoire de l'architecture ou à l'atelier, on leur montre des références, des projets qui ont déjà été réalisés, des projets connus, etc. Ils ont aussi des échanges avec les étudiants et les enseignants. Et toutes ces rétroactions-là, à l'œuvre, aident évidemment l'étudiant à prendre parti. Et enfin, dernier point, certains questionnements ne sont pas utilisés par les étudiants dans ce projet-ci, ou quasi pas. Est-ce que l'énoncé ne le permet pas ? Ça, c'est une question que je me pose, et je crois que c'est surtout lié, par exemple, au fait qu'on n'ait pas de structure, déjà, parce que forcément, c'est un peu plus compliqué, et parce qu'aussi, on n'est pas non plus dans une situation tout à fait réelle. Il y a des raccourcis, on n'isole pas, etc. Donc, il y a des choses, évidemment, qui ne sont peut-être pas développables avec tous les projets. Voilà. Sachez juste que la question est énorme et qu'il y a sûrement des raccourcis, mais c'est...
Laisse-moi réfléchir. Quelle a été la réaction des étudiants au moment où ils ont vu tout le projet ensemble, dans le fond qu'il y a un nouveau projet qui est né de l'assemblage de...
Ils avaient l'air contents. Non, mais... en fait, pendant les ateliers, quand on faisait les tablés, donc les moments où c'est les plus grandes tables et où ils sont à 6-7, moi j'assistais beaucoup pour que chaque étudiant qui présente mette sa maquette entre les 6 autres. Donc ils avaient déjà une première idée de ça. Et comme à chaque atelier, ce n'était pas forcément les mêmes qui passaient au même tablé, c'était à chaque fois des projets différents autour. Et donc leur projet était chaque fois remis un petit peu en cause parce que simplement on avait mis d'autres projets autour. Forcément, le projet d'à côté avait peut-être traité la fermeture ou l'ouverture de son escalier différemment ou des choses comme ça. Et donc y a des moments où certains étudiants étaient même carrément déprimés parce que les choses bougeaient beaucoup. Et donc les autres membres de l'équipe me détrompent s'il faut, mais pendant le projet, il y a un moment donné où on a même reprécisé certaines choses, par exemple sur l'arrivée ou la sortie des escaliers dans les boîtes, parce que c'était tellement variable que l'étudiant qui travaillait dans une unité n'arrivait pas à prévoir exactement où allait arriver l'escalier. Il savait qu'il y avait une zone, mais ça le perturbait, etc. Donc, il y a eu parfois des petits ajustements au fur et à mesure, parce que nous, forcément, les enseignants, on découvre aussi l'énoncé en cours de projet. Il y a une équipe super qui travaille chaque fois à chaque énoncé de projet, qui fait tout ce qu'elle peut. Mais forcément, une fois que c'est lancé, tant qu'on n'a pas testé, matérialisé les projets, les maquettes, on ne peut pas tout prévoir. Et donc, aussi bien les enseignants que les étudiants découvrent souvent, en partie, l'exercice au fur et à mesure, en le faisant. Et donc, c'est ça que je disais, les rétroactions sont terriblement importantes de ce point de vue-là. Et les étudiants ont parfois du mal aussi, quand ils arrivent en bac 1, à comprendre ça, parce qu'ils se disent, ils ont fait un énoncé, c'est pas prévu, qu'est-ce que c'est que ce truc, ils se contredisent, il y a deux profs qui ont un avis différent, alors qu'en fait, ils parlent la même chose, mais pas toujours avec le même point de vue, ce genre de choses. Et c'est là aussi le jeu de l'atelier et le jeu du processus de conception. Parce que plus tard, dans la vie active, ils seront aussi face au maître de l'ouvrage, à l'ingénieur, à l'urbanisme, à plein de monde, quoi.
Il y a une façon d'en sortir, et puis il me semble que les architectes doivent maîtriser, c'est qu'ils ont une demande.
Ah oui.
Et c'est cette analyse de la demande qui permet de savoir avec le client à quel moment est-ce que vous considérez, à quel moment est-ce que vous satisfait du projet que je n'ai pas fait, à quel moment, monsieur le professeur, vous serez satisfait de ma maquette, à quel moment est-ce que monsieur le maire sera satisfait du plan de sa nouvelle cité?
Oui.
Ça, c'est ce qui permet de...
Oui, les enseignants sont des outils pour pouvoir empêcher que les étudiants deviennent fous. On est d'accord.
Mais les clients sont des outils pour empêcher l'architecte, ou pas que l'architecte, mais c'est parce que tu as pris l'architecte comme exemple, l'architecte de devenir fou.
Oui.
Pourrais-tu résumer la question? Parce que je n'ai pas entendu.
Ah, tu n'as pas entendu. André évoquait la question de comment sortir des boucles de rétroaction au risque de tourner en rond sans arrêt. Et donner l'exemple, que ce soit la demande ici du client d'architecte, qui limite ce portement, enfin, qui arrête le bouclage. Donc, il y a un niveau de satisfaction. Enfin, moi, je connais rien en architecture, mais c'est la même chose dans d'autres métiers, informatique. Tu as un certain niveau de résolution, tu as un problème, donc il est contractuel, tout ça. On boucle beaucoup. Est-ce que c'est le bouclage? Quand c'est le tout le temps, moi, j'avais une question aussi, c'était donc, tout ce travail que tu as fourni, c'était voir, c'est une question très générale, qu'est-ce que ça a changé dans ta pratique et qu'est-ce que ça a changé dans ton regard? Pour qui est-ce que ça a changé le plus? Pour les enseignants, enfin, toi ou ton équipe? Et pour les étudiants, quelle est l'incidence de ce travail?
C'est difficile, c'est difficile à dire. Moi, ce que ça a changé, c'est pour la composition, la formulation des énoncés. Clairement, je ne vois plus ça comme avant. Mais je pense que dans l'équipe, même s'il n'y a pas d'autres systémiciens a priori, il y a beaucoup d'architectes ou d'enseignants architectes qui font la systémique sans le savoir, enfin qui utilisent ce genre d'outils un peu sans le savoir, quoi. Maintenant, pour les étudiants, c'est toujours un peu difficile, c'est toujours un peu indirect l'effet. Eux, ils sont confrontés à un énoncé. En général, il faut être honnête, on n'a pas le temps de leur expliquer tout ça quand on a lancé l'énoncé pour expliquer pourquoi on fait ça. Donc, c'est un peu plus difficile de savoir, quoi. Maintenant, ici, comme il y avait la présentation de plusieurs projets réalisés d'étudiants, ça, pour moi, c'est un espoir, parce que si on arrive à rassembler régulièrement des documents sur des projets, etc., on va pouvoir étudier un peu plus la chose, de manière beaucoup plus précise. Et ça, pour moi, c'est un espoir de faire toujours mieux, quoi. Voilà, c'est tout. Nous, on est une équipe où on essaie chaque fois d'améliorer, évidemment, nos énoncés, nos trucs. Et bon, tous les ans, on change un peu, et voilà. Parler sans crainte. Hein.
moi, je dirais que c'était super intéressant, mais il y a plein de contraintes aussi à gérer, tout ce qui est la circulation, l'éclairage, l'encadrement et tout, c'était super intéressant. En fonction de chaque artiste, il y avait un tableau exposé de dimensions différentes. Tout était une question d'éclairage et tout, c'était vraiment pareil. Et puis, le public, privé et tout, c'était assez difficile à gérer. Moi, j'ai quand même pas mal de problèmes.
Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui se rajoute en plus au niveau des contraintes, c'est le tableau qu'on a choisi. Parce que ceux qui ont pris les grands tableaux, comme j'ai eu l'exemple, avaient une contrainte supplémentaire en plus de toutes les contraintes qui avaient déjà été présentées. Et rien que ça, si on pouvait changer le projet.
Et par rapport à l'année passée, parce que moi je suis lycée, le projet qu'on avait eu était beaucoup plus dans un espace tellement vague, pas très dimensionné. Et ici, on a une boîte à un menu capable qui nous permet d'avoir plus de facilité à créer ce projet. Mais l'année passée, c'était un peu plus vague et donc c'était un peu plus difficile. Enfin, pour certains, c'est plus facile, pour d'autres, c'est mieux. Enfin, j'ai bien compris. Non, c'était vraiment un chouette projet.
Sinon, il y a aussi moyen de faire un lien avec votre cours, parce que finalement, il y a beaucoup de choses que vous avez appris du cours de théorie de la conception architecturale, et tous les questionnements dont vous avez parlé, finalement, on s'est retrouvé aussi devant ces questions pendant la création de notre projet. Et je me rends compte que c'est des questions qui peuvent vraiment s'appliquer à tout type de projet et qu'il faut, il faut sans cesse les répéter en soi pour faire évoluer ce qu'on est en train de faire. Et ça m'a un peu aidé aussi dans mon projet, en revenant dessus et chaque fois en me réinterrogeant sur ce que j'étais en train de faire, c'est ce que je faisais si j'allais dans le fond ou bien si j'étais complètement à côté de la tête.
Bien, moi j'ai encore une question, mais qui est plus adressée aux architectes en général. Est-ce que le fait de devoir élaborer un projet avec beaucoup de contraintes n'est pas une des caractéristiques de ce que doit faire l'architecte?
Oui. Oui. Ouais. Bah, c'est de la palissade quasi. Enfin,
oui, donc, ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que le projet est un projet de presque rien.
Oui, ici, ils ne doivent pas le construire à la fin. Bon, après, heureusement, oui. Heureusement, parce que ça avait 300, mais, donc ils ne doivent pas le construire. Mais moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'un jour, quelqu'un fasse le même travail sur la phase entre le moment critique où on dit, voilà, j'arrête le projet, et le chantier, donc toute la durée du chantier. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un fasse ça, quoi, mais bon, il faudrait trouver la personne qui le ferait. Et je suis persuadé qu'il y a les mêmes questionnements qui vont apparaître, sans doute traité autrement, mais après, dans la phase suivante, quoi. Mais bon, ça, c'est un autre travail, encore.
Ça rend les choses plus difficiles pour les gens qui construisent en général. Donc cette vision-là, si pour l'architecte ça paraît peut-être évident, paraît plus difficile une fois qu'on met des gens autour de la construction. Ça, c'est intéressant justement.
Si vous mettez de membres différents, ou de sous-systèmes différents ensemble, plus ça complique, plus ça rend les choses complexes.
Chacun s'occupe d'un petit bout, c'est ça le problème du chantier. Et c'est ça, c'est que la vision, enfin, on est à la fois dans une vision très micro sur les moments, avec un truc qui doit prendre forme en course, qui doit avoir l'air de quelque chose à la fin, avec des gens dont chacun travaille dessus, qui en même temps, dans la manière de travailler ensemble, c'est ça qui fait les boucles, enfin, la rétroaction se fait sur l'ensemble des gens, sans forcément ils y participent volontairement, on va dire, mais de fait, ça se fait quand même, quand ils votent à la fin. On arrive à quelque chose qui est où ils ont l'impression de pouvoir gérer des petits moments de l'air, mais en fait, c'est pas ça qui se passe pour nous, mais c'est ça qui est pour le moment quand même difficile.
Il y a une autre doctorante qui a fait par exemple un travail sur les logiques d'acteurs. Donc, et ça, c'est encore une autre complexité avec le processus. Quoi. Enfin, il y a moyen de. Il y a quelque chose quand même, c'est par exemple si tu prends un bâtiment, je sais pas moi, moderniste, du Corbusier, hyper puriste, très droit, etc. Bon, tout le monde va dire ah, c'est analytique ça. Enfin, et puis tu prends un truc déconstructiviste qui va dans tous les sens, oh, ça c'est complexe, ça c'est. Non, c'est compliqué, mais c'est pas forcément complexe. Parce qu'il y a des choses qui paraissent très simples, mais les faire bien, ça demande justement une énorme maîtrise. Et donc c'est très complexe, du coup. Donc. Oui, ok. Mais donc ça, c'est encore une autre dimension, c'est l'aspect formel que l'architecte peut donner à son bâtiment pour faire comme s'il avait un processus plus complexe ou pas qu'un autre. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ça, c'est, moi, ça me touche moins. Je préfère regarder le processus, enfin, comment ça a été fait.
Okay.